Anne Chautin est tarageoise, fidèle auditrice de PFM et de ses agendas, non-voyante et utilisatrice du braille au quotidien, mais aussi professeure de lettres et formatrice. Elle est venue nous rendre visite dans les studios de PFM pour un échange autour du braille.
Je connais PFM quasiment depuis sa création et je l'écoutais quand j'étais adolescente. Pas très loin d'ici, dans le Douaisis, chez mes parents, voilà.
Est-ce qu'on peut expliquer du coup à quoi ça ressemble le braille et comment ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est des lettres? Est-ce que c'est des façons de dessiner les mots pour un petit peu les auditeurs, pour qu'ils puissent visualiser à quoi ça peut ressembler?
Le braille, donc, ça a été inventé, on pense à peu près vers 1824 par Louis Braille. Et donc, ça se caractérise par un ensemble de points en relief, les points correspondant à des lettres de l'alphabet, donc pour nous, français, de l'alphabet latin. Donc, en fait, chaque combinaison de points correspond à une lettre. Alors, il se trouve que le A, c'est un seul point. Voilà, le L, par exemple, ça va être trois points. Donc, il faut imaginer un rectangle de six points, trois points dans une colonne de gauche et trois points dans une colonne de droite, sur trois lignes, deux en haut, deux au milieu et deux en bas, et on va combiner ces points. En fait, on peut faire 64 signes en mélangeant par différentes combinaisons ces six points. Et l'idée, enfin justement, le génie de Louis Braille, ça a été de comprendre que en agençant ces points, on pouvait les percevoir sous la pulpe du doigt. Donc le doigt n'avait pas besoin de faire des grands mouvements d'exploration des lettres, mais juste en touchant ce qu'on appelle une cellule braille, ce rectangle, eh bien on pouvait décoder une lettre à la fois. Alors qu'avant Louis Braille, au XVIIIe siècle et avant, c'était des lettres, donc les lettres des voyants, qui étaient imprimées dans du papier en relief, gaufrées. Et du coup, ça demandait au doigt de faire des grands mouvements pour pouvoir vraiment identifier le haut et le bas de la lettre. C'était pas du tout adapté à une lecture tactile. Donc ça, c'est vraiment la grande invention de Louis Braille, d'avoir réussi dans un même rectangle à pouvoir dessiner une lettre.
Moi, je vous ai vu lire à la nuit de la lecture. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, il y a les deux mains qui travaillent.
Oui, alors c'est ça. On insiste vraiment pour que notamment les jeunes, enfin bon, c'est plus facile chez les adultes de leur faire comprendre que les deux mains doivent travailler, mais chez les jeunes, voilà, il y a une certaine discipline à avoir pour que les deux mains explorent la ligne, et c'est comme ça qu'on acquiert aussi de la rapidité et de la fluidité. La main droite allant un petit peu explorer la ligne, voir si ce sont des longs mots ou des mots plus courts, et la main gauche décodant plutôt caractère par caractère.
Je me demandais justement comment on pouvait acquérir des facultés pour présenter des lectures en braille. Est-ce qu'il existe des formations? Est-ce que ça s'acquiert par la transmission? Comment on pourrait qualifier cette lecture?
Bon, la lecture en braille, elle est obligatoire pour les enfants dont le braille a été identifié comme modalité de travail, obligatoire au même titre que tout enfant qui apprend la lecture. Donc elle est assurée par des enseignants spécialisés qui ont une formation en effet en braille et qui délivrent ces techniques de lecture aux enfants. Ensuite, il y a quelques spécificités qui sont propres au braille, mais les compétences de lecture, elles sont les mêmes que pour les voyants. Il va falloir comprendre que la langue, elle fonctionne par association et par syllabes, que BA fait BA. Donc après, l'enseignant va plutôt travailler des compétences tactiles pour pouvoir bien faire identifier les lettres aux élèves, enfin aux petits-enfants. Et ça, ça commence en maternelle, un petit peu comme avec les voyants. On les met tout de suite en imprégnation de caractères visuels. Ben, les enfants voyants, dès la maternelle, dès la moyenne ou la grande section, idéalement, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des disparités sur le territoire, mais dans une situation idéale, l'enseignant spécialisé vient voir l'enfant en maternelle et lui soumet ce qu'on appelle le pré-braille, c'est-à-dire des lettres. Alors d'abord avec une boîte à œufs, parce qu'on s'est aperçu que le format d'une boîte de 6 œufs finalement pouvait reproduire cette histoire de rectangle braille de 6 points. Donc on va faire des lettres dans une boîte à œufs avec soit des balles de ping-pong, soit des boîtes d'œufs Kinder là vides, et l'enfant va pouvoir par exemple faire les lettres de son prénom ou des lettres faciles en braille comme le A, le L, ça sont des lettres faciles en braille. Le A c'est un seul point en haut à gauche, le L c'est les trois points verticaux alignés à gauche, le C c'est deux points horizontaux en haut. Donc tout ça ce sont des lettres assez faciles qu'on va pouvoir lui apprendre. Le G aussi, le G c'est un carré, donc c'est les deux points du haut et les deux points du milieu. Et puis après très vite hein, quand même on passe à l'échelle normale du braille. Et on lui fait toucher, on préconise que le bébé, comme le bébé voyant, soit mis en présence de livres. Il existe des livres pour les tout-petits grâce à deux maisons d'édition spécialisées qui sont Les Doigts qui rêvent et Mes mains en or, et qui allient en fait livres tactiles, comme pour les voyants, avec des matières, etc., mais peut-être évidemment plus élaborées. Et écriture braille. Donc, au plus tôt l'enfant a des caractères braille sous les doigts, au mieux c'est, parce qu'on ne lui demandera pas évidemment de les lire, mais il va juste s'habituer à toucher les caractères, à être dans un bain d'écrit comme l'est un enfant voyant, et à comprendre après, enfin, le parent lui dira que derrière ce qui touche, on met du sens.
Puisqu'on parle de livres, on va parler un petit peu du livre que vous avez lu à la nuit de la lecture, et en plus, vous l'avez ramené en studio, donc c'est super, on va pouvoir en parler. Donc il s'agit du Vénérable Mélèze de Gilles Mottet, il est paru cet été, et c'est un super ouvrage en fait, il est magnifique.
Oui, voilà, moi je suis ravie parce que je crois que c'est une des premières fois où... j'ai pu avoir un coup de cœur de rentrée littéraire au même titre que les voyants. Bon, alors j'ai déjà eu des coups de cœur de rentrée littéraire, mais peut-être pas aussi fort. Un collègue me l'a ramené de vacances, cet ouvrage. Il était allé dans les Alpes-Maritimes et il m'a dit « Est-ce que tu connais ?» Et non, je ne connaissais pas. Et c'est un ouvrage qui est classique et moderne, dans le sens où c'est un livre traditionnel avec une reliure spirale, donc un bel objet. Et déjà, il est moderne en ce sens qu'il comporte du braille, un texte en braille, sur lequel s'adjoint des caractères imprimés. Donc on peut lire à deux, en même temps, voyant et non-voyant. Alors ça, ça existe, notamment pour les petits. Il y en a pas mal dans les maisons d'édition jeunesse, Les Doigts qui rêvent, Mes mains en or. Et puis aussi quelques maisons d'édition ont eu l'audace d'essayer de relever ce défi. Mais c'est beaucoup plus rare chez les adultes. Et en plus, c'est un livre multisensoriel. Alors je trouve que ce mot est employé parfois un petit peu à tort et à travers. Et là, pas du tout, dans la mesure où dans ce livre, il y a des images tactiles. Voilà, alors il y a peut-être un peu de bruit parce que je le feuillette. Non seulement il y a les images pour les voyants, mais il y a aussi des dessins en relief qu'on peut avoir sous les doigts, comme ici la fleur du Mélèze. Voilà. Donc ce sont des gravures qu'on peut toucher. Et puis il y a également une carte qui reproduit l'odeur du Mélèze, qui a été faite par des parfumeuses de la ville de Grasse, puisque ce livre a été édité par un arboretum de Roure, un petit village dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Et donc des parfumeuses de Grasse ont reproduit l'odeur du Mélèze. Et moi, je trouve que la carte est vraiment très... elle est enivrante, quoi. Elle donne... vraiment une idée d'évasion rien que par l'olfactif, quoi. En respirant l'odeur, on est transporté très loin de la pièce dans laquelle on lit l'ouvrage. Et après, il y a deux QR codes qu'on peut flasher. Donc ça, c'est vraiment moderne, hein, avec son téléphone. Et ben, on peut avoir accès à la lecture comptée du texte. Donc c'est Jean Mus, qui est un architecte paysager, grand ami de l'Arboretum de Roure, qui a proposé une lecture très expressive, comptée donc de l'ouvrage. Et ensuite, on a aussi accès, par un autre flashcode, à la musique éolienne, donc composée aussi par Gilles Motet, qui est l'auteur du texte, mais aussi compositeur de cette musique, qui est la musique que fait l'arbre, qui est évoquée dans l'histoire relatée dans l'ouvrage du vénérable Mélez. Donc je trouve que c'est un ouvrage extrêmement complet et qui se renouvelle à chaque fois qu'on le lit, en fait.
Et petit problème, il n'est plus disponible.
Eh bien oui, il est vraiment victime de son succès, puisqu'il a été tiré à 1000 exemplaires. Et les exemplaires sont épuisés, hein. Ça a été assez vite vendu. Je crois que voilà, ce coup de foudre littéraire, il a été partagé par beaucoup. Et donc maintenant, alors évidemment, il est vendu 40 €, ce qui n'est pas excessif. Enfin, c'est une somme, hein, on en a bien conscience. Mais techniquement, ça représente beaucoup plus. Donc c'est un ouvrage qui a eu le soutien de bon nombre de mécènes. Et là, les éditions de l'Arboretum sont en train de rechercher à nouveau des soutiens pour pouvoir tirer une nouvelle édition du Vénérable Mélez et voilà, en faire profiter d'autres lecteurs. Et je sais que là, ils ont obtenu justement le label UNESCO parce que c'est un ouvrage, par son texte et par son projet, qui est aussi vraiment porteur des valeurs de l'UNESCO, à savoir le partage, la transmission. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par cette histoire.
Alors nous, on s'est rencontrés pour la dernière nuit de la lecture et vous réalisiez du coup une lecture en braille avec le soutien de la Fédération des aveugles de France.
On a eu beaucoup de chance d'avoir eu un accueil très chaleureux de la part du Tandem, qui nous a ouvert les portes du théâtre d'Arras pour pouvoir lire ce livre qui est paru à la fois en braille et en caractère imprimé sur le même support, dans un même livre. Et l'idée, c'était de partager ce moment de lecture pour la nuit de la lecture et aussi de célébrer le bicentenaire du braille, puisque cette année, on commémore les 200 ans de l'invention du braille par Louis Braille, son inventeur.
Pour la nuit de la lecture, vous étiez accompagné aussi de deux personnes, Caroline et Lucas, pour la lecture du Vénérable Mélez.
C'était important que on soit... Enfin déjà, j'avais pas envie de faire ça toute seule. Et puis, l'idée, c'était aussi qu'il y ait différents représentants des utilisateurs du braille. Donc alors on n'a pas eu la parité vu qu'on était trois, mais il y avait, en termes de genre, il y avait un garçon avec nous. Et surtout Lucas, c'est un jeune, quoi. Il a 13 ans, c'est vraiment un ado. Il a appris le braille vers l'âge de 8 ou 9 ans, donc ça n'a pas été sa première modalité de lecture. Il a d'abord lu en imprimé. Et sa maman, Caroline, est professeure de français, pas très loin d'ici. Donc c'était très important aussi qu'il y ait une variété d'utilisateurs du braille qui soient là pour cette lecture. Alors que moi, je suis aveugle de naissance et que j'ai appris le braille comme première façon d'apprendre à lire en CP. Donc c'était important pour l'échange qui a suivi notre lecture qu'on soit différents représentants et qu'il n'y ait pas une seule situation de lecture du braille qui soit montrée au public. Et l'idée, c'est aussi de dire que le braille, ça s'apprend même quand on perd la vue plus tardivement et que ça demande évidemment un entraînement régulier, ça demande du travail, mais c'est possible.
Comme une lecture normale, j'imagine que vous avez un tout petit peu répété avant pour savoir qui allait lire quoi aussi.
Mais oui, bien sûr, on a travaillé, hein. Ça, c'était pas improvisé et puis c'était un beau moment de partage parce qu'on se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis c'était un beau défi, ça nous a fait travailler, on s'est entraîné au téléphone, enfin c'était sympa et on sera en principe aussi tous les trois lors de ce qu'on va présenter le 24 mai au CPIE.
Le Mélez.
Le vénérable Mélèze. Je suis âgé de 500 ans environ, je n'en suis pas vraiment certain. Je crois que j'ai oublié de compter depuis longtemps. De temps en temps, je suis sujet à la somnolence et à la rêverie, en admirant les crêtes et les sommets des montagnes qui m'entourent. Elles sont si belles en toute saison que, sous leur charme, j'omets de noter dans mes cernes les années qui passent. Je suis le vieux Mélèze à la cime brûlée qui habite dans le vallon de Baris, le long du petit ruisseau qui longe le chemin montant au col au-dessus de la bergerie.
On en est où, justement, de l'accès à la lecture pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes à l'heure actuelle, justement, au niveau des livres, des classiques, peut-être
Ben, je dirais qu'on vit une époque un petit peu paradoxale. Bon, les classiques... Bon, déjà, il y a quand même pas la question des droits d'auteur, qui sont relativement accessibles, dans la mesure où on peut les trouver sur Internet et lire en braille numérique ou en audio. Alors, du braille numérique, c'est du braille qu'on lit par le biais d'une tablette, mais au lieu de lire sur un écran, on a une barrette métallique sous les doigts et des petits picots s'affichent. Donc c'est un système qui s'appelle piézoélectrique. Donc ils montent et ils descendent, les picots, à mesure qu'on appuie sur un bouton. Donc on fait défiler une ligne et cette ligne, elle reproduit ce que vous pourriez voir sur l'écran visuellement. Les picots montent et descendent et forment les caractères braille. Donc on peut lire facilement les classiques par ce biais. Il y a beaucoup de classiques. Hein. Moi, j'ai fait mes études de lettres et j'ai fait étudier les classiques à des élèves étant professeur de français. Il y a beaucoup de classiques qui sont disponibles en braille papier hein, à la médiathèque Éole, qui est la médiathèque Valentin Huy à Paris. On peut aussi en embosser, donc au moyen d'une imprimante en braille papier, et voilà, donc on transcrit les ouvrages. Il y a le centre de transcription et d'édition braille à Toulouse qui fait un remarquable travail d'édition de livres en braille papier aussi. Bon, ce problème des droits d'auteur, c'est un faux problème, puisqu'il existe aussi l'exception aux droits d'auteur qui permet justement de faire bénéficier toute personne empêchée de lire, dont justement les déficients visuels, mâles et non-voyants, de l'exception au droit d'auteur et de contourner le droit d'auteur, donc d'avoir une exception qui lui permet d'obtenir l'ouvrage sans payer le droit d'auteur. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est une grande avancée législative. Cela dit, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'un ouvrage est publié qu'on y a facilement accès. Je pense notamment à tout ce qui est album jeunesse où, comme il y a de l'illustration, les textes en braille sont pas transcrits parce que on pense priver une partie du lectorat de l'illustration, alors que parfois une description pourrait suffire. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir accès au texte parce que on peut pas avoir accès à l'image. Alors certes, on n'a pas accès à l'image, mais du coup, on prive doublement le lecteur. Donc voilà, je trouve que c'est assez paradoxal. Avec le livre numérique et l'exception au droit d'auteur, c'est facile d'avoir accès à la lecture. Et pour autant, non, tous les livres sont pas du tout disponibles en numérique. Si on veut un livre de recettes de cuisine ou un guide de voyage sur... tel ou tel endroit méconnu, c'est pas nécessairement adapté comme on pourrait l'entendre et du coup on peut pas le lire aussi facilement qu'on le voudrait.
On parlait des livres de cuisine, mais j'imagine qu'il y a certaines écritures qui doivent être compliquées peut-être à retranscrire. Moi je pensais aux maths et à la musique surtout.
Ça a été prévu dès la création. Louis Braille, qui était aussi un organiste, évidemment, je n'ai pas connu, mais voilà, j'ai lu à son sujet, un organiste et un professeur de musique assez remarquable, a prévu tout un système de notation et de transcription de la musique et des mathématiques. Alors, les mathématiques ont été revues. Il y a une notation mathématique Braille qui est parue dans les années 2000 et qui fonctionne très bien. L'idée, c'est de traduire linéairement. On n'a pas de système de portée ou de système à plusieurs niveaux, comme vous l'avez chez les voyants. Par exemple, une fraction, vous allez la noter sur 3 lignes, ouais, séparées par une barre de fraction. En braille, ça ne va pas du tout fonctionner de la même manière. Un tiers, on va le noter linéairement, c'est-à-dire 1 barre de fraction 3. Et puis, si on veut vraiment bien noter ce qui est sous la barre de fraction, on va mettre ce qu'on appelle des blocs. Ce sont des parenthèses invisibles qui vont expliquer au lecteur de maths aveugle ce qui est au-dessus de la barre ou en dessous de la barre. Donc, il y a tout un système qui est vraiment prévu pour bien noter la musique et les maths en braille. Ça, c'est vraiment assez bien fait.
Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Chautin, arageoise non-voyante et utilisatrice du braille au quotidien. Avec elle, on parle de l'écriture en braille, de sa création et de son utilisation au quotidien, et de son évolution avec le numérique.
La réflexion que je me faisais était concernant l'accessibilité au braille, justement, puisqu'on parlait de la révolution numérique qui favorisait cette accessibilité. Mais mine de rien, on ne peut pas nier le fait qu'on ressort tout juste d'une période inflationniste, avec le coût de la vie qui est de plus en plus cher. Et justement, la réflexion que je me faisais était sur notre rôle en tant que médias, associatif, public, privé, peu importe. Mais je me demandais si justement notre part à nous n'était pas de donner la parole à un public vaste et large, dans le sens où on pourrait faciliter l'accès à l'information de par justement une adaptation de nos formats en braille. Ou quel serait votre regard sur cet état des lieux concernant notre rôle en tant que média pour favoriser l'inclusion de personnes non-voyantes?
Déjà, moi, je remercie et le Tandem et Radio PFM d'avoir été sensibles à cet événement qu'on organisait. Parce que le rôle de communication et de promotion, c'est vrai qu'il passe aussi par vous. Alors ensuite, je pense qu'il y a en effet un problème de visibilité du braille. Alors, ça paraît paradoxal parce que le braille, on a plus besoin de le toucher que de le voir. Or, je m'aperçois que, en fait, si les voyants ne voient pas de braille, eh bien, ils ne vont pas y penser. Et je pense que, par exemple, le fait qu'il y ait du braille sur les médicaments, moi, je trouve ça important. Il y aurait plein d'autres moyens pour que on puisse avoir accès à l'information qu'il y a sur les médicaments, comme les QR codes, etc. Moi, le braille, ça reste ma modalité première d'accès à l'écrit. Alors, évidemment, on va me dire peut-être que je suis minoritaire chez les non-voyants. Bon, déjà, je ne pense pas être minoritaire. Peut-être chez les déficients visuels, mais en tout cas pas chez les non-voyants. Et je trouve que pour que les non-voyants lisent, on n'a jamais rien inventé de mieux que le braille jusqu'à présent. Donc ça, je tiens à le dire et ça me paraît extrêmement important. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il soit visible, le braille. Sinon, les décideurs qui ne sont pas non-voyants, ils ne vont pas y penser. Or, pour avoir voyagé un peu, en Corée, au Japon, le braille, il est visible. Sur les rampes du métro, on peut lire sur quelle direction on va, sur les rampes des escaliers de métro, sur des distributeurs automatiques. Enfin, ici, je vois pour tirer de l'argent. On ne peut pas être autonome, quoi. Je veux dire, il faut que l'agence soit ouverte ou que j'ai une personne de confiance avec moi pour aller tirer de l'argent. Alors, il ne suffirait pas que le distributeur soit en braille, certes, mais en couplant braille et audio, ça pourrait aider aussi. Donc, je pense que oui, il y a des choses à faire, mais là, il faudrait vraiment que ça vienne d'une politique volontariste et qui permettent de promouvoir ce mode de lecture et d'écriture qui est vraiment opérant et qui a fait ses preuves, puisque bon nombre de personnes aveugles et malvoyantes insérées professionnellement l'ont été et le sont grâce au braille.
Justement, pour rebondir sur ce que vous venez d'énoncer concernant cet aspect d'inclusion des personnes non-voyantes dans le milieu professionnel, est-ce que vous considérez que les personnes atteintes de manière plus générale de handicap ne sont pas suffisamment représentées dans la sphère médiatique? Et est-ce que vous considérez qu'une place plus importante attribuée à ces personnes-là dans les rédactions permettrait d'éveiller la conscience des plus grands nombres ?
Oui, oui, sans aucun doute. Ça, je pense que la visibilité, elle est importante. Bon, alors voilà, on a des exemples. Hein. On pense tous à Kim Kasmi, qui est journaliste aveugle sur France Culture, ou à Laetitia Bernard, qui est elle aussi journaliste aveugle sur France Inter. Il y en a quelques-uns. Mais voilà, ça reste des exemples extrêmement minoritaires dans les médias et partout, quoi, en fait. Voilà, partout.
Alors pour les langues régionales, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut les transcrire facilement aussi ? Ou est-ce que ça se fait pas de... Est-ce qu'il y a des livres en braille, justement, avec la langue régionale, en ch'ti, par exemple, ou en picard ?
Ça doit exister, moi j'en connais pas, mais bon, je sais qu'il y en a, par exemple, en catalan... Bon, le ch'ti, ça me paraît pas hyper compliqué dans la mesure où c'est des caractères latins. Une transcription, ça se ferait très facilement. Après, il y aurait des élisions, mais comme chez les voyants, quoi. Par exemple, pour aller dire « va chercher tes chaussures », on dirait « va quer tes chaussures ». Bah, « quer », on écrirait, j'imagine que c'est « Q-U-E-2-R-E ». Une « caille » pour une chaise, on écrirait « C-A-Y-E-L », j'imagine. Donc, ça pourrait se faire, à mon avis, sans difficulté, ouais. Ouais, ouais.
On parlait aussi du braille numérique. Est-ce que vous avez constaté l'impact peut-être de ces nouvelles technologies dans la façon de lire le braille, de l'utiliser ? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ?
Pour le coup, oui, moi je pense que le braille numérique c'est révolutionnaire. Ouais. Parce que ça permet vraiment une correspondance immédiate entre voyants et non-voyants. Par exemple, ce que nous on a sous les doigts, sur la plage tactile, vous pouvez l'avoir à l'écran. Donc par exemple, ça, en termes de scolarisation, c'est fabuleux, parce que ce qu'écrit l'élève, son enseignant voyant qui ne connaît pas le braille, peut le lire directement. Ou ben, ce qu'écrit un aveugle amoureux, ben, son amoureuse peut le lire tout de suite, quoi, parce qu'il peut l'envoyer par mail ou l'imprimer par le biais d'un fichier commun. Donc ça, pour moi, c'est révolutionnaire, d'autant que moi, je fais partie d'une génération qui a grandi au millénaire précédent et qui a connu l'époque où, pour correspondre avec mes copines ou mes amoureux, fallait qu'on trouve des codes, parce que je pouvais pas lire les lettres de mes copains-copines, sauf s'ils apprenaient le braille. Alors certains l'ont fait, bien sûr, mais après, il faut avoir un matériel, etc. Donc, pareil, quand j'ai pu bénéficier d'une scolarisation avec les voyants à partir de la 5e, mais je devais retaper à la machine à écrire mes devoirs. Alors que maintenant, ça, c'est plus du tout nécessaire. L'élève va rendre son devoir soit sur clé USB, soit par fichier docs, mais qu'il aura tapé en braille, et l'enseignant va l'imprimer. Et donc, en termes d'insertion professionnelle, c'est révolutionnaire également, puisqu'on va travailler sur les mêmes documents, on va échanger des mails. Oui, moi, je pense que pour les non-voyants, le braille numérique, c'est une révolution. Et je suis heureuse de l'avoir connu, ça, c'est parce que je l'ai vécu, cette transition. Voilà, moi... Comme je vous le disais, mes bulletins, je ne pouvais pas les lire moi-même. Ça, c'est fini. Alors, c'est fini, oui et non, parce que maintenant, on a d'autres problèmes, par exemple, qui sont ceux de l'accessibilité numérique. Et si je prends l'exemple du bulletin, ben, c'est pas anodin, c'est parce qu'on s'aperçoit que Pronote, par exemple, qu'utilisent tous les élèves voyants, c'est quand même le logiciel... Enfin, je crois que tous les élèves se connectent au moins une fois par jour sur Pronote chez les voyants. C'est beaucoup plus compliqué pour un non-voyant. Bon, ça se fait à peu près par le téléphone, mais on n'est quand même pas aussi rapide, loin de là, qu'un voyant. Et ça demande quand même beaucoup d'apprentissage, parce que c'est quelque chose qui est très visuel. Ce sont des interfaces graphiques qui ne sont pas textuelles. Et parfois, on a aussi beaucoup de photos de documents. Et ça, des photos, bah, ça reste une image. C'est pas un texte. Même si c'est un texte qui est pris en photo, ça n'est pas le texte, ça n'est pas de l'alpha numérique. C'est jamais que du graphique. Et ça, c'est pas décodable par des logiciels qui gèrent le braille. Donc, ça pose vraiment d'autres questions. Et moi, je me rends compte que l'accès à la lecture, finalement, alors qu'il devrait être extrêmement simple, il devient compliqué parce que ça pose des problèmes de fiabilité du matériel. Il suffit que le matériel soit en panne pour que l'élève, par exemple, soit privé de tout matériel. Maintenant, il ne vient plus avec sa machine à écrire en braille papier à l'école. C'est fini, ça. Donc, du coup, si la machine est en panne et qu'il ne le dit pas, ce qui est de bonne guerre chez les élèves, il peut rester 3 semaines sans que personne s'aperçoive que l'appareil ne marche pas. Si tel ou tel site internet n'est pas vraiment accessible dans la mesure où il n'a pas été prévu pour répondre aux lois d'accessibilité, les recherches elles vont être vite bloquées ou tout ce qui est travaux sur internet. Donc ça pose vraiment d'autres questions et c'est dommage parce que je trouve que Louis Braille ne savait pas du tout que son système serait tout à fait adaptable aux nouvelles technologies et ça c'est miraculeux aussi. Mais il y a quand même des limites. Et puis, le matériel braille est très coûteux. Les plages braille et le braille numérique, l'accès au braille numérique est cher. Ça reste des obstacles qui, malheureusement, freinent l'accès au braille et l'accès à l'écrit pour les déficients visuels.
Et si, alors c'est peut-être un peu maladroit de comparer ça à la langue des signes, mais si justement je suis professeur, formateur ou n'importe qui a envie de travailler à cette accessibilité, qui a envie d'apprendre le braille, bon je pense qu'on peut commencer peut-être à l'apprendre chez soi justement ou en se rapprochant, vous nous aviez ramené un alphabet justement de la Fédération des aveugles de France. Mais est-ce qu'il y a des écoles qui proposent éventuellement d'apprendre le braille un peu comme la langue des signes ou pas encore ?
Non, pas encore. Il y a des formations, on peut en trouver, mais en tout cas pas à l'école, sauf pour les élèves déficients visuels, bien sûr, qui font l'objet d'un accompagnement spécifique et qui bénéficient d'un accompagnement par des enseignants spécialisés. Après, c'est le milieu associatif qui donne accès. Il y a des formations de lecture et d'écriture en braille. Pour les voyants, ce sera surtout une lecture visuelle du braille. C'est quand même beaucoup plus simple parce que les compétences tactiles, elles sont très longues à acquérir et ça demande un travail d'endurance et d'entraînement régulier. Donc oui, je dirais que c'est surtout le relais des associations. Moi, je travaille à l'Institut National Supérieur pour l'Éducation Inclusive. Et là, évidemment, on propose aussi des formations plus professionnalisantes pour les accompagnants des personnes en situation de déficience visuelle. Mais il n'y a pas comme pour la langue des signes, par exemple, un CAPES qui existe, qui permettrait d'avoir l'enseignement du code braille dans certains collèges ou lycées du territoire français. Ça n'existe pas pour tous les élèves, non.
J'aimerais qu'on parle aussi d'un événement qui va bientôt avoir lieu en mars, le poinçon magique. Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, alors ça c'est un grand concours national. On va d'ailleurs fêter son 30e anniversaire qui est organisé par l'association Valentin Huy, qui est une grande association nationale pour les aveugles et qui a des comités régionaux. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est une dictée en braille qui va avoir lieu donc le 19 mars prochain et qui aura lieu dans tous les comités locaux de l'association Valentin Huy. Donc à Lille, ce sera organisé et puis ça aura lieu aussi dans les centres qui scolarisent des élèves déficients visuels et qui veulent proposer à certains élèves de concourir à cette dictée en braille. Par exemple, je sais que ça aura lieu à Laon, à la mairie de Laon. Des enseignantes avec le relais du comité de Valentin Huy de Soissons et puis de l'Aisne ont relayé justement ce concours national et l'organise le 19 mars prochain. Donc c'est une grande dictée nationale. Il y a 4 catégories, donc il y a adultes et juniors, et puis il y a la catégorie braille intégrale et aussi braille abrégé, qui est une sténobraille qui existe et qui permet de gagner en rapidité de lecture et d'écriture. Donc oui, c'est comme une sténo, par exemple. Merci, on va l'écrire MC. Ça permet vraiment d'aller plus vite. Et pour le coup, là, c'est en braille papier. Donc, on ne concourt pas en braille numérique parce que l'idée, c'est de garder encore cette trace du papier et puis peut-être de mettre tout le monde plus en situation d'équité par rapport à la maîtrise des outils braille parce qu'on a plein de générations qui concourent à ce concours. Donc, on a encore des gens qui écrivent au poinçon. Donc, ça permettait vraiment de percer du papier pour faire des points en relief de l'autre côté. Et puis des gens qui écrivent avec une machine plus élaborée qui s'appelle la machine Perkins et qui est un petit peu comparable à une machine à écrire. Donc voilà, et ben je crois qu'on attend quand même pas mal de candidats. Hein. L'année dernière, il y en avait eu à peu près 150. Je ne sais pas combien on en aura cette année. Moi, je vais corriger. Je fais partie des correctrices du concours. Voilà.
Et on en parlait tout à l'heure, il y a aussi d'autres rendez-vous sur Arras qui vont bientôt arriver.
Oui, ben on va reconduire cette expérience qui a été vraiment très profitable pour tout le monde, je pense, de cette nuit de la lecture. Donc là, on va faire dans un autre cadre. Donc on va lire l'ouvrage de Gilles Mottet, Le Vénérable Mélèze, au CPIE, donc qui est le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, qui nous accueillera à Arras donc le 24 mai prochain à partir de 14h. Et comme on l'avait fait pour la nuit de la lecture, on va poursuivre cette lecture par un atelier autour du braille pour permettre aux gens de lire aussi des petits mots en braille et puis d'écrire en braille. Et on remercie vraiment le CPIE de nous accueillir. C'est Claire Fontenot qui porte le projet à Arras. Parce que justement, ce sera dans le cadre de la Semaine de la Nature et cet ouvrage porte un message et un bel éloge de la nature. Donc on voulait que ce soit aussi des lieux qui soient emblématiques voilà, de ce que nous apporte tout notre patrimoine naturel. Donc on est vraiment ravis que ça ait lieu là-bas. Et puis je profite de cette émission pour dire à toute personne qui a une structure et qui souhaiterait nous accueillir qu'on est vraiment disponible et partant du moment que voilà, on arrive à s'inscrire dans une journée un peu nationale, enfin qui soit plus général que le bicentenaire du Braille. On veut vraiment que le bicentenaire du Braille soit aussi allié à d'autres événements et qu'on puisse porter cet ouvrage de Gilles Mottet, donc du Vénérable Mélèze.
C'était un entretien avec Anne Chautin, arageoise, fidèle auditrice de PFM et de ses agendas, non-voyante et utilisatrice du Braille au quotidien, mais aussi professeure de lettres et formatrice. Elle est venue nous rendre visite dans les studios pour un échange autour du braille. Une interview réalisée avec la complicité de Maxime Bouillet, stagiaire à Radio PFM et étudiant en master design informationnel et journalisme transmédia à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes.